VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. La majorité républicaine du Sénat américain a renoncé mardi à voter cette semaine sur son projet de réforme du système d'assurance santé dans le pays. L'abrogation partielle de l'Obamacare, le système de santé mis en place par l'ex-président Barack Obama, a buté sur la résistance d'une poignée de frondeurs. Claire Morin-Gibault.
Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a annoncé hier que la proposition de loi ne sera pas examinée cette semaine. Le sénateur David Perdue ajoute que le vote pourrait avoir lieu en juillet. Sur les 52 sénateurs républicains, au moins 5 sont contre, alors que le groupe ne peut se permettre que 2 défections. Des ultra-conservateurs estiment que le projet ne va pas assez loin pour supprimer Obamacare, alors que les modérés s'inquiètent de voir des dizaines de millions d'Américains privés d'assurance santé. Les 48 démocrates ont fait front commun contre l'initiative. Le report du vote est un revers pour le président Donald Trump, qui a du mal à concrétiser sa promesse électorale d'abrogation de la loi démocrate de 2010. Dans l'après-midi, tous les sénateurs républicains ont été invités à la Maison-Blanche.
L'OTAN, pressé par le président américain Donald Trump de mettre davantage la main à la poche, s'attend à une hausse de 4,3% des dépenses de défense en Europe et au Canada en 2017. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi son secrétaire général Jens Stoltenberg. La hausse attendue pour 2017 représente des dépenses supplémentaires de 12 milliards de dollars en Europe et au Canada. Elle ne prend pas en compte la forte augmentation du budget militaire américain déjà annoncée par le président Trump. Crise migratoire, les efforts des migrants pour atteindre coûte que coûte l'Europe à partir de la Libye continuent de faire des victimes. À preuve, la découverte hier dans l'est de la capitale libyenne des cadavres en décomposition d'au moins 25 migrants. Ils sont morts noyés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Eric Manirakiza.
Selon le Croissant Rouge, la plupart des corps gisaient au milieu des rochers près de la banlieue d'Otajoura. D'autres ont été découverts sur une plage. Au même moment, les gardes-côtes libyens ont secouru près de 150 personnes. La plupart sont des jeunes du Sénégal, du Mali, du Cameroun et du Soudan. Ils ont été par la suite mis dans un camion pour être conduits à un centre de rétention. Une femme tenant son bébé de quelques mois a éclaté en sanglots après avoir vu son rêve de rejoindre l'Europe s'envoler en quelques heures. Elle avait aussi versé son argent aux passeurs. Les autorités italiennes affirment que plus de 73 000 migrants sont arrivés en Italie depuis janvier dernier. D'après les Nations Unies, cette périlleuse traversée de la Méditerranée dans des bateaux surchargés et vétustes a déjà fait cette année plus de 2 000 morts ou disparus.
Au Gabon, un ancien candidat à la présidentielle de l'année dernière qui avait menacé mi-juin 2016 de faire exploser des bâtiments à Libreville si le président Ali Bongo Ondimba ne quittait pas le pouvoir, a été appréhendé mardi. Roland Désiré, Abba Aminko, a été placé en détention préventive avec son ancien directeur de campagne, Guy Arlin Nanango. Hier soir, après avoir été inculpé entre autres d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, d'incitation à la révolte et de diffusion de fausses nouvelles en vue de troubler l'ordre public. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi à l'AFP le procureur de la République, Steve Ndong et Sam Ndong. Rappelons que le 16 juin 2016, la capitale gabonaise Libreville avait été prise d'un mouvement de panique après une série d'incidents sécuritaires provoqués par Roland Désiré Abba Aminko, qui s'était finalement rallié à Jean Ping, le principal rival du président Ali Bongo Ondimba. En RDC, le gouverneur de la province du Nord, Kivu, proche des frontières du Rwanda et de l'Ouganda, a alerté l'armée congolaise ce mercredi concernant la multiplication des attaques des miliciens dans la région, attaque qu'il considère comme le prélude d'une nouvelle guerre dans l'est du pays. Je lance une alerte particulièrement à l'état-major de l'armée congolaise pour qu'il focalise désormais ses stratégies face à ces nouvelles incursions, a déclaré le gouverneur Julien Paluku à la presse à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, en précisant qu'une nouvelle guerre se profile à l'horizon. Ces attaques à répétition à Beni dépassent de loin la capacité des présumés Maïmaï, a ajouté Julien Paluku, indiquant que cette situation devenait inquiétante parce qu'elle fait penser à l'existence d'une autre force qui soutiendrait ces miliciens encore non identifiés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, que devient Malam Ibrahim Diko, le chef du groupe terroriste en Sahoul Islam qui a perpétré la plupart des récentes attaques dans le nord du Burkina. Ce mardi, un communiqué sur une page Facebook attribué à Ansarul Islam a désigné Jafar Diko comme le nouveau chef du groupe. D'où cette question, Malam Ibrahim Diko a-t-il été tué dans les récentes opérations antiterroristes dans le nord du Mali? Bagasikoura a posé la question au journaliste malien Moussa Diko.
Sous réserve d'être authentifié, parce que c'est un communiqué publié sur une page Facebook, si jamais le communiqué est authentifié venant de Ansar Islam, ça veut dire qu'il y a un changement de leadership au niveau de cette katiba qui est beaucoup plus affiliée à l'État islamique qu'à Hakimi au Sahel, au Maghreb du moins.
Oui. Alors, dans le communiqué, il parle de circonstances graves. Ça pourrait faire allusion à quoi?
Le communiqué est flou, mais c'est circonstances graves. Et puis quand je vois qu'Allah le facilite, qui revient plusieurs fois, on a l'impression que les dernières opérations des forces Barkhane dans cette zone ont sans doute coûté la vie à Malam Ibrahim Diko. C'est l'impression que j'ai beaucoup plus que le monsieur. Soit il a été tué lors d'une opération Barkhane, ou il a été victime d'un règlement de compte au niveau même de son organisation. C'est l'impression que le communiqué donne.
Alors, on dit que son remplaçant, le remplaçant d'Ibrahim Diko, c'est Jafar Diko. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Je ne connais pas précisément Jafar Diko. C'est un analyste inconnu qui va peut-être sortir bientôt de l'anonymat. Et il faut surtout craindre des représailles, des opérations d'envergure, parce que chaque nouveau responsable nommé au niveau d'une katiba ou d'une organisation terroriste cherche d'abord à se mettre en évidence pour se faire respecter d'abord au sein de sa katiba.
Parlez-nous de l'importance de Ansarul Islam au sein des groupes islamistes au nord au Mali.
Ansarul a une position très ambiguë parce que, vous savez, récemment, il y a eu une alliance au niveau du Sahel où on a créé une nouvelle alliance commandée par IAD. Mais curieusement, Ansarou n'est pas dans cette dynamique, parce qu'Ansarou est beaucoup plus attaché à l'État islamique, comme je l'ai dit plus haut. Mais bon, Ansarou a une puissance, parce que c'est Ansarou qui a amené le djihad au Burkina Faso. Ansarou est devenu vraiment un élément très dangereux, parce que ces éléments naviguent entre les frontières du Mali et le Burkina. Ils commettent des actes au Burkina, ils se réfugient au Mali, ils admettent des dégâts au Mali et ils retournent au Burkina. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des opérations de ratissage des armées maliennes burkinabées et soutenues par Barkhane dans cette zone.
Le journaliste malien Moussa Diko, joint à Bamako par Bagassi Koura. Le programme alimentaire mondial, le PAM, demande à l'Union européenne de l'aider à réunir $1 milliard au cours des prochains mois pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Nigeria, en Somalie, au Sud-Soudan et au Yémen. André Vornik, porte-parole du PAM, évoque ici l'étendue des besoins.
Si on ne reçoit pas l'argent, des gens vont mourir. Et nous parlons effectivement de beaucoup de personnes. Évidemment, il n'y aura sans doute pas 20 millions de morts, mais nous parlons quand même potentiellement, par exemple, de 100 000 enfants qui souffrent de malnutrition et qui risquent effectivement de perdre la vie. Il faut savoir aussi que la famine, c'est quelque chose qui frappe d'une façon extrêmement aiguë les populations, mais que si on intervient trop tard, même si on arrive à réduire l'impact dure quand même pendant des années. Il faut savoir quand même qu'il s'agit d'une perte de la force productive de divers pays. Nous parlons d'à peu près 1,1 milliard de dollars répartis sur les 4 pays. Bien sûr, ce n'est qu'une partie des chiffres nécessaires sur la longueur de l'année, mais il faut savoir que cette crise touche tout le monde et nous comprenons d'une certaine façon le fait que les pays donateurs soient un peu moins disposés à payer pour essayer de remédier à cette tragédie, dans la mesure où, bien sûr, il y a des pressions budgétaires internes, dans la mesure où il y a une profusion de crises qui se déroulent sous nos yeux. Mais nous en appelons quand même à la solidarité internationale sur ce dossier. Et il faut savoir que nous ne nous bornons pas seulement à demander de l'argent. Nous demandons aussi à ce que pression soit faite sur les parties en conflit, parce qu'il faut savoir que dans quasiment toutes ces zones qui sont affectées, les parties en conflit ne respectent pas le droit humanitaire.
André Vornik, porte-parole du Programme alimentaire mondial à Rome. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.